En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, merci, Monsieur le Président. Tout le monde s'est toujours moqué de l'Académie des Beaux-Arts depuis deux siècles. Je veux commencer, avant de vous de faire parler de la croix, par vous dire quelques mots pour vous expliquer comment est né ce texte. Nous pratiquons aussi très souvent l'autodérision. Et c'est en réalité à cet exercice qu'on m'a demandé de me livrer devant vous. On se moque de nous et nous sommes les premiers à nous moquer de nous-mêmes. Et c'est une idée qui était né lors de la préparation de l'exposition de la Croix avec mes amis Sébastien Allard, le directeur des peintures du Louvre, et Côme Fabre, l'autre commissaire de cette exposition. Nous nous étions demandé comment Delacroix était arrivé à l'École des Beaux-Arts, et au fond, on se disait, il nous manque un document, c'est le discours qu'il a prononcé quand il a été reçu. Alors moi, je suis allé à la bibliothèque en me disant, on a moqué la candidature de Delacroix. Delacroix, dans son journal, se moque beaucoup des académiciens des Beaux-Arts, mais il y a quand même eu un moment où il a dû être admis, entrer dans cette salle et peut-être prononcer l'éloge de son prédécesseur. Je suis donc allé à la bibliothèque de l'autre côté de ce corridor et j'ai compris qu'il n'y avait pas eu de discours et vous allez voir pourquoi. Mon idée première, c'était de proposer à Sébastien Allard et à Côme Fabre un article d'historien de l'art sur la question, sur les difficultés qu'avait pu avoir Eugène Delacroix à devenir membre de cette compagnie. Sébastien Allard m'a dit pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut imaginer le discours. J'étais à l'époque en train d'écrire le discours que je préparais, le discours d'éloge de mon prédécesseur, avant d'être installé ici. Et l'esprit un peu potache de l'Académie fait qu'il m'a dit « Allez, vas-y, écris-le, et puis même fais-le à la première personne, n'hésite pas ». C'était un piège, puisque moi je suis un ingriste, je suis de l'autre camp, mon grand homme c'est Monsieur Ingres, et donc faire parler Delacroix et me placer dans la psychologie d'un Delacroix qui regarde les membres de l'Académie des Beaux-Arts avec suspicion et avec le désir aussi de les convaincre et de les séduire, c'était pour moi un exercice doublement difficile. Alors vous allez voir tout ou presque se passe dans cette salle. Je vais y faire défiler des spectres que vous allez voir s'afficher sur ces écrans. Vous avez vu qu'il y a autour de cette salle des médaillons. L'un d'entre eux a été peint par Ingres. Il s'agit, voilà, petit exercice, il s'agit, je vous donne la réponse, de l'abbé Barthélemy, le plus sobre, le plus simple, finalement, qui est une œuvre qui a été exécutée par Ingres, payée à Ingres, enfin, on en a toutes les sources documentaires. Et puis, il y a un médaillon qui reste vide au-dessus de notre bien-aimé secrétaire perpétuel. Il n'a jamais été peint. Et je pense que peut-être il faudrait un jour commander, à notre confrère Gérard Garouste, un portrait de Delacroix, ou plutôt un portrait de Lebrun dans le style de Delacroix. Donc c'est le style de Delacroix que j'ai essayé d'adopter pour écrire ce texte. Tout y est authentique, certaines phrases sont de lui, mais tout est imaginaire, comme ce discours qu'il aurait pu prononcer dans cette salle. Et évidemment, toute ressemblance avec des académiciens actuels serait suite d'un malentendu. C'est donc Delacroix, chers amis, qui s'adresse à vous, tel que j'ai essayé de le faire entendre. Cette année-là, j'avais 39 ans et j'avais peint un portrait de moi portant un gilet vert. Personne parmi mes amis n'avait compris que j'avais envie, non d'un gilet, mais d'un habit vert et que je ne craignais personne. Le baron Gérard venait de mourir. Je l'avais bien connu, il m'avait encouragé. Je me suis mis en tête de rechercher les suffrages de ses confrères de l'Académie. J'aurais voulu faire son éloge. Mais ce n'était même pas nécessaire. L'Académie des Beaux-Arts n'a pas cette tradition de l'Académie française qui oblige le nouvel élu à prononcer un discours à la gloire de son prédécesseur. Lamartine, en 1829, dut parler du comte Daru. L'horrible Ponsard de Baour-Lormian, qui était encore pire que lui. Victor Hugo s'attaqua avec panache à la carrière de Nepomucène Le Mercier. Charles Nodier a dû faire apparaître le fantôme de Jean-Louis Laya. Aujourd'hui, vieil élu, académicien enfin, après 8 campagnes qui m'ont laissé tant de blessures, rien ne saurait m'obliger à faire l'éloge de Paul Delaroche, à qui je succède et que j'ai tant méprisé. Delaroche si plat, qui a osé faire le portrait de Michel-Ange dans l'hémicycle de l'École des Beaux-Arts. Il a mis devant les futurs artistes cette vignette coloriée. Son Léonard et son Raphaël ne valent pas mieux. À force de vouloir poser à celui qui ne fait que de la peinture sérieuse, comme il dit, il n'aura laissé que des figures vides de sang, comme ce portrait du prince Czartoryski à la triste figure que j'avais vu un jour, un fantôme en habit noir. Ce qu'il peint est fait pour être transformé en gravure. Moi, mes grands décors sont uniques, on ne peut pas en faire de la petite monnaie, des pochoirs et des coloriages. Ingres est sans doute celui qui l'a, plus que moi, regardé de haut. Ce rapprochement objectif entre nous deux, alors que les caricaturistes des journaux s'amusent à nous opposer, a peut-être servi ma cause, à moins que ce ne soit ces lettres d'une écriture à rien tremblée que j'ai envoyées à chacun en leur disant que la gravité de ma grippe m'empêchait de leur faire visite. Quel soulagement pour les chers maîtres! Ils se sont dit qu'ils s'épargneraient ma conversation avec ce terrible sujet de mes échecs précédents à contourner avec grâce, ce qui les aurait bien fatigués car ils n'ont pas vraiment les usages du monde et les grâces de la conversation leur sont tout à fait étrangères. Ils n'ont pas appris ça dans leurs ateliers. Ils se sont dit sans doute que je n'en avais plus pour bien longtemps et que je libérerais vite mon fauteuil. Ça peut être mauvais la grippe. Si je leur avais fait 20 visites, j'aurais pu aisément provoquer 7 ou 8 vacances. Mais l'habit vert fait vite reverdir ceux qui le portent. Je vais bien mieux et j'ai presque envie d'écrire enfin, en regardant mon jardin, ce discours que je n'ai jamais prononcé, celui de ma réception académique. Je serais même partisan d'en instaurer l'obligation. Ce serait drôle. Cela montrerait à ces messieurs de la française que nous aussi, nous savons écrire. L'éloge de Delaroche, quel cauchemar! À tout prendre, j'aurais encore préféré l'éloge d'Ingres, mais il est en vie, et maintenant que me voici son confrère, je ne lui souhaite plus aucun mal, pauvre homme, il est incapable d'écrire, même une lettre à sa gouvernante. Quand je me présentais pour la première fois à l'Académie des Beaux-Arts en 1837, elle avait meilleure allure que l'Académie française. Nous, j'ose dire « nous » pour parler d'eux, j'ai mis tant d'années à dire « nous », mais ça y est, c'est fait. Nous avions tout de même Horace Vernet, Paul Delaroche malgré tout, les gens connaissent, Pradier, David d'Angers, Percier et Fontaine, Cherubini et Aubert, ce n'était pas de la si mauvaise compagnie. Il y avait aussi Ingres. Il avait été élu en 1825 au fauteuil de vivant de nom, qu'il haïssait au point de se rendre à son enterrement au Père Lachaise pour vérifier qu'il était bien mort et s'en réjouir. Je me demande même s'il n'a pas craché sur sa tombe pendant qu'on ne le regardait pas. À la française, cette année-là, les pauvres, ils avaient Salvandi, Lebrun, Frayssinous, Duval, Lacué. Mon Dieu, Lacué, il est comte de l'Empire et porte une autruche dans ses armoiries. Et à part Lamartine et Chateaubriand, rien qui pût faire envie à un jeune poète ou à un auteur de théâtre. Cela dit, j'aurais peut-être eu des chances à l'Académie française. Ça les aurait amusés de faire enrager ceux des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts se prétendait d'une noblesse d'extraction très ancienne, descendante des académies royales de peinture, de sculpture, de musique. Elle se donnait du vernis et des airs de princesse du sang, cousine du roi. Il n'en était rien. Elle avait été formée sous l'Empire. On avait alors mélangé les lettres et les arts. Bonaparte avait été élu à l'Académie des sciences, sans doute pour ses qualités d'artilleur. Il regardait ce système avec fierté. Les académies avaient été fondées une nouvelle fois au début du règne de Louis XVIII avec beaucoup des anciens membres et quelques nouveaux. Et elle n'avait rien d'une vieille dame sous ses allures un peu austères. Un an après le sacre, l'empereur avait fait dégager la vieille école et les ateliers qui encombraient encore le palais Mazarin et il avait fait faire de grands travaux sur le quai. Ses confrères siégeraient dans de la belle architecture qui aurait l'air d'avoir été bâtie pour eux on disait le palais de l'Institut, comme s'il existait ainsi depuis des lustres. L'Académie, avec ses ridicules et ses vanités, avait tout pour me tenter. L'opposition de M. Ingres, que je prévoyais, était à mes yeux un détail. Peut-être même serait-elle un levier pour rallier à moi ceux qui ne supportaient pas ce petit dictateur ventripotent avec son accent de Toulouse ou de Montauban, je ne sais plus trop. Il n'était pas encore le Jupiter tonnant qu'il se croit aujourd'hui. Il avait voulu faire la révolution dans l'atelier de David et il était devenu l'héritier de son maître. Il avait peint Bertin, le libéral, l'homme de progrès, l'ami des artistes, les cheveux en bataille, l'œil vif. Mais parce que c'était lui, Ingres, qui avait fait ce portrait, Bertin avait l'air d'un gros fermier parvenu, comptant ses rentes à la Balzac. Ingres, de même, était devenu directeur. En 1835, à force d'intrigues et de recommandations, on lui avait donné la Villa Médicis. En 1837, pour mon premier essai, la voie était libre. Il était là-bas. Mes amis se moquaient de moi. Était-ce parce que mon père avait été ministre et qu'il était devenu préfet, que mon frère était général, mon beau-frère préfet lui aussi, que j'avais envie de porter un habit brodé? Je voulais des feuilles d'olivier pour rivaliser avec leurs feuilles de chêne et de laurier. Depuis l'Empire, l'habit vert a changé. Hugo a eu l'idée de remplacer la culotte par le pantalon, il était temps, et c'est ce fade Delaroche, toujours prêt à se draper dans une pose avantageuse, qui a eu l'idée d'ajouter cette grande cape à fermoir d'or. Tous ces vieux messieurs l'ont adoptée. Elle corrige leur allure et les préserve du fatal refroidissement quand ils traversent en habit les cours du palais de l'Institut, ce Vatican où ils se regardent en se demandant qui sera le prochain. Les Burgraves. Étais-je trop jeune en 1837 ? Je ne le crois pas. J'avais l'âge de Napoléon à Wagram, j'avais déjà reçu une importante commande, le Salon du Roi, au Palais Bourbon. Pourquoi ne serais-je pas élu à presque 40 ans à l'Académie ? Ingres y était entré à 44 et Horace Vernet à 37. J'étais entre les deux, les petits malins me brandissaient un vieil article écrit en 1831 dans la revue L'Artiste, alors toute neuve, où je réclamais un salon réformé avec un jury d'admission des œuvres composé d'artistes élus par leur père et non plus de membres de l'Académie. Si ce papier maudit tombait en de mauvaises mains, j'étais perdu. Quand un académicien mourait, quelques mots étaient prononcés pour saluer sa mémoire. Je ne sais plus qui avait fait cet éloge de poche du baron Gérard, qui était entré à l'Institut en 1812. J'avais envoyé une lettre de candidature. Gérard, homme du monde, recevant beaucoup, était un ami de ma famille. Il avait encouragé l'apparition de Dante et Virgile. C'est peut-être même lui qui avait attiré l'attention du jeune Thiers. Sur ce tableau, Monsieur Delacroix a reçu le génie. Les réunions de l'Académie des Beaux-Arts étaient toujours le samedi, à 1h. Les candidats se cachaient dans le voisinage, sur le pont des Arts, dans les estaminets sur les quais, guettant l'arrivée de leur soutien et cherchant à lire dans leurs yeux si ce serait voile noire ou voile blanche. On n'a jamais eu à déplorer de suicide. L'avantage de l'échec académique, c'est qu'à l'Institut, on vit très vieux, mais on meurt souvent. Il n'était pas si difficile de se représenter. Celui qui vous a battu peut devenir une voix en votre faveur, c'est le jeu. Candidature numéro 1. Patatras, Victor Schnetz était plus vieux que moi. Il était né avant la Révolution, enfin 2 ans avant pour être exact. Il fut élu au premier tour. C'est son vieil ami Horace Vernet, élu depuis 1826, qui l'a soutenu. Schnetz, c'est encore l'antique tribu des élèves de David, passé dans l'atelier de Gros et de Gérard. Il avait tout pour être adoubé. Je crois qu'ensuite, il m'a soutenu. Je l'aimais assez, au fond. Horace Vernet en a assez d'être vu comme un chien fou, amusant et prolifique. Il se croit un maître. Pour pourvoir le fauteuil de son père, Karl Vernet, fils de Joseph, il avait soutenu la candidature de Picot, qu'ils avaient installé, comme ils disent, sur sa banquette au mois de janvier. Picot avec ses lourds plafonds pour le musée Charles X, Cybèle protégeant contre le Vésuve les villes d'Herculanum et de Pompéi. une vraie allégorie de l'impuissance. C'était sa carte de visite qu'il était allé corner au Louvre. Je n'avais donc pas bien préparé ma prise du pouvoir. Je suis resté sur le quai. Mais j'ai compris comment ce conclave se passait. Ne votent que ceux qui sont présents le jour dit, votent les peintres, mais aussi ceux des autres sections, comme on dit, alors les sculpteurs, les musiciens, les architectes et les graveurs. Les membres libres, quel joli nom, une classe à part, qui sont de grands amateurs, des amis des arts, des hommes de collection et de bibliothèque, réclament à mi-voix le droit de voter. Ils l'obtiendront un jour, c'est certain. Ils ont déjà réussi à participer à l'élection du président de l'Académie et du vice-président, qui, comme dans les villes de l'Antiquité, ne sont élus que pour un an. C'est le vicomte de Senones qui a proposé cela. Il est un peu le chef de la tribu des membres libres. On dit que le portrait de sa femme par M. Ingres est une merveille. Pourquoi pas, après tout, Ingres est portraitiste. Tant pis pour lui, il en souffre tellement. La section concernée classe les candidats et suggère ses préférences, espérant que sera élu celui qu'ils ont placé en première ligne. C'est l'expression, comme sur un champ de bataille ou dans un registre de comptabilité. Il est fréquent de voir les membres des autres sections demander qu'on allonge la liste, qu'on ajoute tel ou tel, ce qui agace. Mais c'est la tradition. S'agacer les uns les autres est un de leurs grands plaisirs. Le vote est à bulletin secret, tout le jeu est là. Les sculpteurs, les architectes peuvent chacun, selon son goût, avoir envie de contredire le goût des peintres. C'est surtout ainsi que les surprises arrivent. Tout le monde a un avis à donner sur la peinture, plus que sur les gravures au burin ou sur les basiliques. Les membres libres viennent pour montrer qu'ils comptent. Ils discutent dans les couloirs, espèrent que leurs avis seront écoutés. Certains étaient alors très respectés. Le comte de Choiseul-Gouffier y rapporta à Paris la belle procession de la frise du Parthénon, mais qui mourut très vite, était aimé. Il était aussi de la Française, je ne sais même pas s'il vint siéger aux Beaux-Arts. Le comte de Chabrol lui succéda, et aujourd'hui, le comte de Rambuteau, que je n'aime guère et qui ne m'aime pas, mais qui sont des gens du monde. Rambuteau, vieux scélérat, quand il était préfet, il m'avait recommandé de ne pas gâter Saint-Denis du Saint-Sacrement. Et la dernière fois que je l'ai croisé dans un dîner, devenu aveugle, il me disait qu'il avait toujours tant aimé mes peintures. Parmi les peintres, je ne savais pas trop sur qui je pouvais compter à l'époque de ma première candidature. Paul Delaroche, évidemment pas. Élu en 1832, il avait aussitôt adopté, comme il était le Benjamin de la troupe des crocodiles, les défauts de son beau-père Horace Vernet, qui n'avait de cesse de vouloir plaire au plus vieux du Marigot. Je faisais mes plans. Granet ne votera pas pour moi, il représentera Ingres, qui ne fera pas le voyage. Les derniers élus, ce sont Abel de Pujol, arrivé il y a 2 ans, encore un faiseur de plafond pour le Louvre, et l'ennuyeux Picot. Je n'ai rien à attendre d'eux, les autres on verra. Tous ces noms dont aucun ne périra, Louis Hersant, Jean-Joseph Xavier Bidault, François-Joseph Haim, Mary-Joseph Blondel, Étienne Barthélémy Garnier, Michel Martin de Rolingue, Charles Thévenin. En sculpture, j'aurai peut-être des appuis. David d'Angers, républicain de cœur, il va vouloir aller contre les autres. Les sculpteurs ont un peu peur de voir arriver le romantisme, comme ils disent, dans leur domaine où règne encore ce qui reste des débris du beau idéal. Que feront Claude Ramey, Jules Ramey et son fils, le pauvre enfant, Petitot, Pradier, Bozio, Cortot? Ils savent bien ce qu'on dit dehors. Les sculpteurs membres de l'Institut sont les plus inconnus des sculpteurs et les plus inconnus des membres de l'Institut. Mais ce n'est pas vrai. On se heurte à leurs œuvres un peu partout dans Paris, sauf que les Parisiens seraient incapables, même sous la torture, de citer leur nom. Les architectes ne se sont pas renouvelés depuis longtemps. Louis-Hippolyte Lebas, Antoine Vaudoyer, qui a refait le palais quand l'Institut s'y est installé et considère qu'il est chez lui. Guenpin, Percier et Fontaine, les compères, François Debray. Les graveurs ne feront pas d'éclat, telle est leur tradition. Pierre-Alexandre Tardieu, Théodore Richomme, qui ne jure que par Ingres, André Gall, qui cisèle des monnaies, Louis Desnoyers, qui met 2 ans à buriner une planche. Je n'imagine pas combien de temps il faut à cet homme-là pour changer d'avis. En musique, il y a Antoine Récha, élu en 1835, Aubert en 1829, Ferdinando Paer, Henri Montan-Berton, qui n'aime que les honneurs et a fait plus de 50 opéras qu'on ne joue plus nulle part. Cherubini, qui ne jure que par Ingres et réciproquement. Paer a été élu en 1831. J'avais écrit à Paul de Musset pour lui demander de me le rallier. Je pense qu'il y est arrivé. Paer peut être mon cheval de Troie dans le clan des compositeurs. J'étais naïf, les peintres ont classé 6 noms, Schnetz en première ligne, Cognet, Langlois, Granger, Steuben, Couder. Je ne figurais pas sur la sacro-sainte liste. Les autres m'ont ajouté, manière de dire que ma candidature n'est ni absurde ni fantaisiste. Ils appellent cela le coup de chapeau. Mais ils ont ajouté aussi Rouget, le vieux qui terminait les tableaux de David. Il leur a rendu des services à tous, mais nul n'en veut. Ce pauvre Allot, un plat disciple d'Ingres qui va jusqu'à le peindre dans son pauvre salon à Rome pour lui faire sa cour. Il n'y manque pas une tomette. Un homme qui ne fera jamais rien de bon et rêve de commandes et de grands tableaux. Et Vénoton, lui personne ne sait qui c'est. Un avantage considérable. Ils ont recalé Roqueplan, mais qui est plus jeune que moi, le vieux Paulin Guérin, né en 1783, qui a fait le portrait en costume de sacre de Louis XVIII, qui ne se fit jamais sacré. Il y a de vrais destins d'artistes. Vinchon, que j'aime bien, c'était un ami de mon pauvre Géricault, et mon voisin, dont on m'a donné le nom et que je ne connais pas. J'ai eu la liste des présents, ils étaient 41, mais seulement 38 à voter. Les 3 membres libres qui se sont dérangés sont les plus élégants et ne m'auraient pas été défavorables, le vicomte de Senones, le vicomte Turpin de Crissé et le vicomte de Pastoré. Que se racontent-ils ces 3-là quand ils sont entre eux? Ils ne savent pas à quel point ils pourraient gagner à m'avoir comme ami le samedi après-midi. Je les changerai un peu de tous ces fils de tonneliers et d'aubergistes. Tant pis pour eux, et je leur souhaite de devenir comte et puis marquis comme Pastoré père, Capin de la Roche, car traîner une vie de vicomte, cela ne vaut pas la peine. Schnetz a donc eu 24 voix dès le premier tour, un triomphe qu'il était enfantin de prévoir. On ne m'a pas dit combien de voix j'avais fait, c'est secret, ça vaut mieux. On brûle les bulletins comme à la Sixtine. Le secrétaire perpétuel, Quatremer de Quincy, est bien fatigué. C'est un membre de l'Académie des inscriptions, de plus en plus indéchiffrable et de moins en moins présent à lui-même. Il mourra dans son fauteuil, c'est leur chef, leur sachem, qui règne et ne gouverne pas. Ce qui est triste, c'est qu'il n'est même pas membre de l'Académie des beaux-arts. Comme ces cités italiennes qui se choisissent un maître venu de la ville voisine, il a été désigné parce que messieurs les artistes, enfin ceux-là, ne sont visiblement pas capables de se gouverner eux-mêmes. Quatremer est bien gâteux, un peu sourd, c'est l'idéal. Au salon, cette année-là, j'ai exposé la bataille de Taillebourg. Une ruée de combattants, une grande toile pour la galerie du roi, combien d'entre eux en auraient rêvé? Ce qu'ils ne me pardonnaient pas, c'est mon premier tableau, ma barque de Dante, acheté immédiatement pour être exposé en public au musée du Luxembourg. J'ai au Louvre ma place marquée pour le lendemain de ma mort. Je suis dans la galerie nouvelle de Versailles, dont tout le monde parle. Voilà une immortalité qui peut agacer chez les immortels. Partant de là, j'aurais dû les dédaigner. Dès ma seconde candidature, j'eus l'air de m'acharner. Je l'avais décidé. À chaque fauteuil libre, je me présenterai. Pour leur rappeler que je suis là, pour leur montrer mes succès, pour les broderies, pour faire partie des jurys, pour avoir des élèves, pour avoir ma chaire à l'école des beaux-arts, il n'y a pas de raison. Parce que je n'ai pas eu le prix de Rome, que je ne suis pas allé en Italie, je suis allé en Algérie et au Maroc, mon antiquité. Ingres n'a connu de l'Orient que certaines maisons de Naples, il n'a jamais vu les ciels que j'ai vus. Pauvres académiciens, ils ont aussi des membres étrangers. Il leur a fallu pour voir un fauteuil en musique. Ils avaient reçu des lettres des Italiens qui vivent à Paris, une de Fioravanti, qui faisait déjà des opéras bouffes sous l'Empire, de Portogallo, un contrepointiste, c'est tout dire, et du père Mattei, un vieux monsieur qui avait, dit-on, donné des leçons à Rossini, et qui retombait en enfance, plus une lettre postée d'Allemagne, écrite en français, d'un certain monsieur de Beethoven, qu'il ne connaissait pas plus que ça. Savez-vous ce qui arriva ? Le père Mattei fut élu, je crois, à l'unanimité. Là aussi, c'était facile à prévoir, ils auraient recalé Michel-Ange. Mais peu à peu, il mourrait. Moi, je persisterai. En 1830, j'avais montré la liberté. Guidant le peuple, les chers maîtres avaient perdu une chose essentielle, dont ils parlaient encore entre eux quand il n'y avait personne pour les écouter. Ils avaient perdu l'espoir d'être baron. Louis XVIII avait fait de Gérard le baron Gérard. Charles X, sortant du Panthéon, dont il était venu voir la coupole peinte, avait dit « Je vous félicite, monsieur Gros », ou plutôt devrais-je dire « Monsieur le baron Gros ». Et c'était fait. Pierre-Narcisse Guérin était devenu le baron Guérin, ce qui fit enrager ce pauvre Paulin Guérin, avec qui on ne le confondrait plus. On avait aussi vu surgir, quai de Conti, le baron Regnault, puis deux sculpteurs, le baron Lemot et le baron Bozio, qui vendaient déjà ses statuettes d'Henri IV enfant à toutes les châtelaines, et même Desnoyers, à force de buriner ses planches, à en devenir fou, avait été fait le baron Boucher Desnoyers. En 1830, tous prenaient des paris. Percier et Fontaine attendaient en sautillant sur place, auraient-ils chacun leur baronnie ou une baronnie pour deux ? Cherubini et Boieldieu se voyaient bien baronisés et en buste à l'opéra, et du jour au lendemain, la fontaine des honneurs s'était tarie. Mon frère, Charles-Henri, avait été fait baron de la Croix par l'empereur, on n'en avait pas fait tout un fromage. Mais eux, ça les occupait. Louis-Philippe ne voulait plus rien savoir. Je me demande si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles ils avaient peur de me voir occuper le fauteuil du baron Gérard. On me pensait apprécié du roi et de sa famille. Quelle horreur ça aurait été pour ces messieurs si, avant eux tous, j'étais devenu le baron de la Croix, peintre d'histoire. Je les aurais coiffés, battus sur leur champ de bataille favori, j'aurais gagné là où seuls eux avaient le droit de perdre. En 1838, en mars, j'ai donc posé ma candidature, comme ils disent, au fauteuil de Charles Thévenin, qui, en 1825, avait succédé à Giraudet. C'est Jérôme Martin Langlois qui fut élu. Langlois, fidèle élève de David, la pire tradition. Il avait peint le dernier beau portrait du maître, avec sa bouche déformée et son air cruel, un monstre vieillissant, et des tableaux mythologiques à périr, Cassandre, Diane et Endymion. Il avait barbouillé quelques décors, des commandes officielles pour Notre-Dame de Lorette. Il était vieux comme tout, il est mort dans l'année. Je n'avais pourtant pas prononcé de malédiction hugolienne comme dans Le Roi s'amuse. Il était arrivé, sans que j'y sois pour rien, devant le tribunal de Dieu, et le jugement dernier de la critique décida vite qu'on l'oublierait. La composition de l'Académie n'avait que peu changé. En sculpture, on avait vu arriver Dumont, qui avait pris la place du père Ramet. Percier était mort et ils avaient voulu huver. En musique, on avait vu arriver Michele Carafa, un prince italien qui avait fait la campagne de Russie et à qui le public préférait toujours Aubert. On l'avait élu pour le consoler. Auguste Coudert, qui était de 1790, succéda en 1839 au pauvre vieux Langlois. La bataille, je m'en souviens, fut brève. Granger est le premier à se déclarer avant même que, selon l'usage, on signale la vacance du fauteuil. Les candidats battus par Langlois l'année précédente se présentent à nouveau, mais aussi Delorme, qui a 55 ans, Théodore Gudin, dont les marines sont à la mode, et Moser, qui n'a aucune chance. J'ai fait quelques visites. Je connais bien Drolling, chez qui, en 1824, j'avais admiré des dessins d'après Michel-Ange. Il se souvient bien de moi. Pour qui va-t-il voter ? Les visites, heureusement, ne sont pas obligatoires. Mais rien ne les interdit. Certains concurrents cherchent ou jouent à chercher les endroits où ils vont croiser les académiciens par hasard. C'est une comédie à écrire. À nouveau, les peintres ne me classent pas. Mon nom est ajouté avant le vote à la demande d'autres membres de la compagnie, peut-être Paër, à qui Paul de Musset a osé parler de moi à nouveau, ou David d'Angers, à moins que ce ne soit Dumont. Il sait que j'aime bien son génie de la liberté au sommet de la colonne de Juillet. La liberté nous rapproche. Cette fois, j'ai chuté. Je suis le dernier de la liste, sans aucun espoir de passer. Dans l'ordre, sortent du Bicorne, Cognier, Langlois, Steuben, Coudert, Granger, Delorme. Cela figure, m'a-t-on dit, dans le procès-verbal. Ils en répondront au tribunal de l'histoire. Sont ajoutés Allot, Vinchon, Rouget et de la Croix. Allot a été furieux, son maître, M. Ingres, toujours à Rome, ne l'aidait pas beaucoup, il a dû enrager sur son Aventin. Dans les années qui ont suivi, ils ont cessé de mourir. Cela m'a permis de travailler. En 1846, il y a bien eu la mort de Bidault, mais l'Académie décida de réserver son fauteuil à un paysagiste pour célébrer l'entrée de cette pratique dans le grand art. C'est la suite de la création bien tardive d'un prix de Rome de paysage historique. C'est Brascassa qui fut élu, fils de tonnelier qui a son atelier dans une étable à Château-Rouge, du beau monde. Moi, j'ai reçu la commande de la bibliothèque du Palais Bourbon, ce qui a dû faire grincer bien des vieilles dents. Le roi m'a demandé l'entrée des croisés à Constantinople pour sa salle des croisades à Versailles, ma médée a été achetée et envoyée au musée de Lille. Grâce à Thiers, en 1840, nouvelle grande commande, la bibliothèque du Palais du Luxembourg, la chambre des pairs cette fois. Ce qui aurait été drôle, c'est qu'on me demande une fresque pour la coupole de l'Institut. Après tout, ça appartient à l'État. J'aurais fait tomber mes couleurs sur leur tête. On m'aurait donné pour cette action d'éclat 10 fois plus que ce que ces tâcherons gagnent en 10 ans. Cela aurait été justice. J'ai fait, cette année-là, ma barque de Don Juan. Personne n'a remarqué que j'y avais caché un personnage en bicorne avec une cape. Je me suis réjoui quand, en 1844, Alfred de Vigny a été élu à l'Académie française. Le pauvre vieux romantique, il avait subi 7 échecs. Un exemple, il leur a fait un tel discours de victoire, mêlé de reproches, voilé. Ils ont si bien senti son mépris qu'ils le tiennent tous à distance. Quand je serai élu, je prendrai bien garde de ne pas l'imiter. Je n'en prenais pas le chemin, ma barque académique prenait l'eau de plus en plus, c'était le naufrage de Don Juan. Des articles affreux paraissaient contre moi, je m'imaginais à chaque fois qu'ils venaient de l'académie. Dans le journal des débats, la feuille des gros Bertins à propos de ma Pietà de Saint-Denis du Saint-Sacrement, j'ai lu et je l'ai appris par cœur, « Cet homme est l'équivalent d'un charlatan ». Ses doctrines sont pernicieuses, il a un mépris profond pour la vérité, toute son allure est celle d'un singe. Quand, en 1845, j'ai assisté au défilé des Indiens peints par Kathleen avec leurs plumes sur la tête, j'ai pensé à la petite tribu de sauvages qui campent quai de Conti avec leurs coiffes et leurs allures de grands chefs tatoués de bons principes. Je parlais de tout cela avec un de mes cousins que j'ai retrouvé dans ces années-là, Berryer, qui fut élu à l'Académie française en 1852, il m'a un peu aidé de l'intérieur de la maison, même s'il n'y a pas beaucoup de liens entre les différentes académies. Chez lui, chez Berryer, j'ai eu le bonheur de rencontrer souvent la belle Hermance, la comtesse de Caen. Elle a les plus beaux bras du monde à faire ce damné chassériau, robe noire et ruban vert. Nous avons beaucoup parlé des beaux-arts. Elle est la fille de ce Marchou, riche à millions, qui possède la galerie Colbert et la galerie Vivienne. Mais surtout, elle est artiste. Elle a dessiné et sculpté les cariatides qui ornent ses passages couverts. Elle les trouve si belles qu'elle pense que dans des lieux pareils, on pourrait apprendre l'histoire des arts. Je l'encourage, je lui dis que c'est splendide. Elle rit aux éclats. Si l'Académie élisait des femmes, il faudrait qu'il y ait d'abord la comtesse de Caen. Ils s'ennuieraient moins, les crocodiles. Je cherche à la convaincre, si je suis élu, de laisser entendre qu'elle lèguera sa fortune à l'Académie. Elle rit un demi-ton moins haut. Je sens bien qu'elle préférerait être élue elle-même et ne jamais mourir. J'ai tout fait pour qu'elle fasse tout pour moi. Enfin une femme qui s'intéresse à mes envies de broderie. Impossible de réussir sans les femmes à l'Institut. C'est presque aussi important que la revue des deux mondes. Avec elle, j'en ai une et des plus intéressantes dans mon camp. Le cousin Berrier m'approuve. Elle rêve de créer un prix pour les jeunes artistes, ceux qui reviennent de Rome sans tambour ni commande. Elle est un vrai passage découvert. J'arrange dans son corsage des branches de genévrier. J'avais du travail, mais je continuais à penser à ces chimères de temps en temps. Quand en 1846, je suis devenu officier de la Légion d'honneur, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que cela irait bien sur mon futur habit et que plusieurs des chers maîtres n'avaient que le ruban et pas encore la rosette. Si je devenais maintenant aussi vaniteux qu'eux, j'avais mes chances. Je plaçais à tout hasard un article dans la Revue des Deux Mondes, qu'ils lisent tous, c'est l'antichambre. Une belle tartine sur Prudhon qui avait été élue en 1816, au fauteuil de Vincent. Je marquais ma déférence, mais l'achèvement de la bibliothèque du Luxembourg fut suivi d'un accueil triomphal que j'aurais du mal à faire oublier et alors cacher. En 1847, quand j'ai terminé la bibliothèque du Palais Bourbon, j'ai composé avec art la liste des invitations pour l'inauguration, avec tous les noms des membres de l'Institut que je jugeais susceptibles de m'apprécier. Et j'ai ajouté, bien sûr, des ingristes, académiciens ou pas, comme Varcolier ou Amaury Duval, Drolling, le baron Boucher des Noyers, Delaroche, Vernet, Alévi, Barre, Gudin, Itorf. En mars cette année-là, j'ai suivi le triste convoi de la fille de Barry. Il ne s'y trouvait aucun de ses amis que je vois ordinairement avec lui. À l'église sont venus Zimmermann, Dubuff, Brascassa, que je voyais pour la première fois, petite figure, noire et rechignée. J'ai flairé qu'il était si content d'en être. Il m'a à peine salué. Les académiciens font d'abord semblant de ne rien voir. Ensuite, ils font les étonnés et attaquent sur l'air du « cher ami » qui signifie « jamais, vous m'entendez jamais, je ne vous donnerai du cher confrère ». Cela les amuse à n'en plus finir. Chaque âge a ses plaisirs. En 1848, j'ai lancé à la surprise de tous un bel article sur le baron Gros dans la Revue des Deux Mondes, rappelant sa mort tragique en 1835. Cela pouvait plaire au vieux maître. C'est la critique et les modernes qui avaient tué le vieux Gros. Il était allé se noyer. En attendant, aucun ne mourait. Gros était entré parmi eux en 1816. J'allais peut-être convaincre Abel de Pujol, élu à sa place en 1835, de me regarder mieux. Je me sentais une sorte d'Edmond Dantès qui préparait sa vengeance. J'ai lu Monte Cristo, qui m'a amusé, mais quand on a lu ça, on n'a rien lu. Dumas veut l'Académie française, mais l'aura-t-il? Hugo voulait être la brèche vivante par laquelle entreraient les novateurs. Ce n'est pas si simple et je me demande si par cette brèche j'arriverai moi à me glisser. Dumas, ils ne les liront pas. Autant imaginer qu'ils soient un jour enterrés au Panthéon. Dans la presse, Delphine de Girardin a écrit ce que je pense. C'est donc un inconvénient que d'être célèbre. C'est donc un crime que d'avoir des droits. Balzac et Alexandre Dumas écrivent 15 à 18 volumes par an. On ne peut pas leur pardonner ça. Un trop fort bagage est un empêchement. À l'Académie, la consigne est la même qu'au Jardin des Tuileries. On ne laisse point passer ceux qui ont de trop gros paquets. En 1848, j'ai été nommé parmi les 12 membres du jury du Salon, sans être entré à l'Académie. J'ai bien senti que c'était un pas trop loin. J'ai écrit à Charles Blanc, directeur des Beaux-Arts, pour en être dispensé. Blanc aimerait bien être membre libre. Il y sera, j'en suis certain, et de l'Académie française aussi. En 1849, j'ai tenu les cordons du poil de mon pauvre Chopin qu'on a porté au cimetière et Balzac s'est fait battre au fauteuil de Chateaubriand. Comme j'étais triste à l'infini, je me rêvais directeur du Louvre ou de la manufacture des Gobelins. J'y serais peut-être parvenu facilement en m'en donnant la peine, je crois. Il est plus simple de convaincre l'État, surtout dans ce qui était alors une nouvelle république, que les vieilles cervelles calculatrices de ces messieurs. Je peignais des fleurs. On m'a commandé la chapelle de Saint-Sulpice. Encore une commande, je dévorais tout. Coudert, du haut de son fauteuil de Langlois, ne fut pas mauvais bougre, il m'a donné des conseils. Mais il aurait fallu qu'il passe à la pharmacie des Borgia pour m'aider vraiment. Tous étaient vivants. Chez le baron de Trémont, le collectionneur d'autographes, j'ai parlé avec Onslow, musicien immortel et qui le sait. Ils m'ont montré une lettre de Léonard de Vinci écrite à rebours. La liaison intime qui est entre deux, a un peu refroidi mon désir d'être invité à leur quatuor. Enfin, Onslow, c'est une voix et chaque voix compte. Toutes les nouvelles qui me parvenaient de l'Académie étaient de la farce. En 1849, Gâteau, graveur en médaille, grand suppôt d'Ingres, accéda à la présidence, succédant à Horace Vernet, et Delaroche fut élu vice-président. Il fallait le voir, Delaroche, cherchant à parler de musique avec moi quand nous étions invités au même concert de la Viardot. Comme il s'étudiait, on sentait qu'il savait que l'année suivante, ce serait lui le président. C'était automatique, mais comme cela lui faisait plaisir, il verrouillait tout. En dehors des jurys, que faisait-il ? Toujours cette prétention à l'art sérieux, comme disait Delaroche. Il leur plaisait tant, Delaroche. Ils étaient persuadés qu'il avait de l'esprit, qu'il était homme du monde. Ils s'imaginaient les hommes du monde à travers lui, avec sa cape et son grand nez. Il faisait le léger, le muscadin dans les soirées où je le voyais chez Thiers, à l'ouvrage. C'est vraiment son discours d'éloge que je suis en train d'écrire. Thiers était si content de son portrait par Delaroche, un Gâteau glacé sans caractère, sans exécution, dans un beau cadre, le portrait d'un homme en noir, par un amateur qui aurait voulu se divertir, rien d'un vrai peintre, il l'a fait graver, bien sûr. Depuis quelques mois, ils ont une belle salle de réunion, construite par l'un des leurs, Hippolyte Lebas, qui a dessiné une boîte à chaussures et un carton à chapeau carré, mis bout à bout. Cela donne une nouvelle aile du palais où ils ont moins froid et qui les fera durer plus longtemps. On dit que le mobilier est confortable, mais les chaises, un peu raides pour ne pas s'assoupir, ce qui est leur pente. Dans ce décor nouveau, un beau grand cercueil de bois clair qu'on a enrichi de portraits et de bustes, il faut s'occuper. C'est une autre affaire. Ce qu'ils font entre eux, secret et pour cause. On m'a montré un compte-rendu de séance qui disait à peu près « Monsieur Philippon adresse à l'Académie un plan de sa composition pour une habitation rurale. Il demande pour récompense de son travail que lui soit donnée une charrue. Il sera répondu à l'auteur de cet envoi pour l'engager à s'adresser à Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Commerce, l'Académie n'ayant pas de charrue à sa disposition ni de fonds pour en acquérir. C'est merveilleux de courtoisie. Voilà à quoi s'occupent les génies de notre temps. Il donne comme sujet de composition musicale des poèmes de Lamartine, ce grand Daddée, et au concours de peinture des sujets comme Ulysse reconnu par Euryclée, la mort d'Agis ou Ménélas blessé. Ils ont décidé d'écrire à eux tous un dictionnaire des beaux-arts. La française a bien le sien, il n'y a pas de raison. On se lance dans le dictionnaire des beaux-arts avec des mots comme « accouplé » au féminin pluriel. Mais grâce à Dieu, il s'agit de colonnes. Et le perpétuel, M. Raoul Rochette, de l'Académie des inscriptions, a dit qu'il se réserve d'écrire lui-même l'article « Académie des beaux-arts » de l'Institut de France. Ça va être éblouissant. La lettre A n'avance pas vite. On discute de savoir si la lithographie est un art ou un simple prolongement du dessin. Il serait temps. Géricault a fait des chefs-d'œuvre avec le crayon lithographique et c'était avant 1820. Richomme est enfin mort, laissant à la postérité bienveillante ses gravures charbonneuses d'après Ingres, Léonard de Vinci mourant dans les bras de François Ier, Henri IV jouant avec ses enfants qui moisiront et se piqueront dans bien des couloirs de manoir de Touraine. Il est remplacé par Henri Quel Dupont, qui a pour lui d'avoir fait la gravure de l'amphithéâtre de l'École des Beaux-Arts, le piètre chef-d'œuvre dont M. Delaroche est si fier, son petit dictionnaire des Beaux-Arts illustré. Divine surprise, un mort. Le 8 décembre 1849, je pose enfin ma candidature au fauteuil d'Étienne Barthélémy Garnier, qui était né en 1759, un des plus immortels. Un éternel. Il vient comme moi d'une famille où il y avait eu des menuisiers, des ébénistes. J'aurais pu lui succéder. C'était un élève de Vien, le maître de David. Or, c'est Léon Cogniet qui est de 1794, qui a été élu au deuxième tour. Cognet, je le connaissais depuis toujours. C'était mon condisciple dans l'atelier de Guérin. Il avait eu le prix de Rome en 1817 avec un tableau qui ne valait rien. Son plafond du Louvre exaltant la campagne d'Égypte daté de 1835, il était temps de le faire entrer, qu'on ait l'enfilade des salles du musée de Charles X bien complète, avec toujours un règne de retard. Cognet m'apprécie, cela dit. Il pourra peut-être m'aider. Cette nouvelle candidature manquée m'a permis de faire le point de mes soutiens. Du côté des sculpteurs, le maire a succédé au baron Boziot, ça ne change pas grand-chose. Francisque Duré à Cortot, cela peut m'être favorable. Chez les architectes, excite Antoine Vaudoyer, tant mieux, remplacé par le sueur, tant pis. Martin-Pierre Gauthier a pris la place de Guenpin, c'est du pareil au même, Fontaine est toujours là. En gravure, Forster a remplacé Tardieu, mais cela ne compte pas pour moi. Chez les musiciens, Paer n'est plus, hélas, mais à sa place, c'est Spontini qui me plaît bien. On ne parle plus de Montan-Berton, remplacé par le léger Adolphe Adam, c'est bien. Cherubini est enfin allé rejoindre la muse qu'Ingres avait peinte pour lui, puisque c'est ce fameux George Onslow qui l'a remplacé. Il faut absolument que ces nouveaux musiciens fassent campagne pour moi, eux m'éliraient. Chez les membres libres, conseillers de l'ombre, j'ai aussi des alliés maintenant. Il y a le baron Taylor qui défend les romantiques, pour autant que j'en sois un, Alphonse de Cailleux, Tanguy Duchâtel qui a pris la place du comte Siméon. J'ai perdu le comte de Forbin qui maintenait la balance égale entre Ingres et Géricault sous la Restauration et je ne suis pas sûr d'avoir grâce aux yeux de Frédéric Douteau. Le vicomte de Senones est mort en 1840 et Montalivet, à sa place, est un homme moderne. Pastoret, qui ressemble de moins en moins à son portrait par Ingres, n'a pas encore rendu son âme noire au diable, mais peu importe. C'est un cœur muet qui chante à bouche fermée. Ils n'ont toujours pas réussi à faire réformer les statuts pour voter avec les autres. Ils ne votent que dans leur section. Ils enragent, ils haïssent les autres. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la troupe des candidats battus de la fois précédente, qui se trouve grossie par l'arrivée des nouveaux. Hippolyte Flandrin, qu'il croit qu'il suffit d'être l'élève préféré de M. Ingres pour y arriver. Signol, Gosse, il y a toujours Paulin Guérin, que rien ne décourage. Allot, qui piaffe, Ingres lui a fait des promesses. Croire que les ingristes tiennent tout est trop facile, c'est oublier le vote des musiciens, des architectes. Dans ma lettre de candidature, j'ai cité tous mes tableaux et les grands décors, j'ai bien mis en avant les peintures religieuses. J'ai énuméré tous mes sujets à l'antique, à se demander si je n'en avais pas peint autant pour leur montrer à quel point je suis, moi, le dernier des Grecs et des Romains. J'ai même osé leur écrire que je prêchais pour les principes éternels du grand goût. Toute honte bue, ce sera la devise que je ferai graver sur mon épée. Je leur ai écrit. C'est pour la quatrième fois que j'ai l'honneur de me présenter au suffrage de l'Académie. Cette insistance et le désir très naturel de faire partie d'un corps illustre suffiront-ils pour faire excuser l'infériorité de quelques-unes des productions que j'ai mentionnées? J'éprouve une juste défiance en approchant d'une réunion qui représente les traditions et les principes éternels qui ont été ceux du grand goût chez tous les artistes célèbres du Molière. Je ne sais pourquoi ils ne m'ont pas cru. Le mot « défiance », peut-être, mal choisi. J'ai écrit à Arsène Housset pour lui demander de ne pas signaler ma candidature dans la revue L'Artiste qu'il dirige, mais en ajoutant bien que certaines mésintelligences commencent à s'apaiser. Je pense avoir, ou je pensais avoir, enfin, quelques soutiens, et peut-être même chez les peintres. À cette élection qui a vu le triomphe de mon ami Cognet, j'ai enfin été classé par la section de peinture. Un événement. En quatrième ligne, ils sont trop bons. Cognet, Flandrin, Allot, Delacroix, Larivière, Signol, Rouget. On ajoute toujours par la voie du vote, selon le règlement, Vinchon, Hesse et Gosse. Bon, ils n'ont pas mis Larivière avant moi, il ne faut pas exagérer. J'aurais dû tenir un journal de mes candidatures, j'aurais eu de quoi remplir des pages. Ce sont mes bulletins de la Grande Armée, mais qui vont de défaite en défaite. Le jour du vote, Ingres était là, et Gâteau et Fontaine, mais aussi David d'Angers, Dumont. Quelques jours après l'élection de Cognet, Granet meurt. Coup de tonnerre. j'ai posé ma candidature. Puis, je l'ai retirée. À quoi bon subir un échec encore plus net ? Il y a des limites à l'humilité. Au fauteuil de Granet fut élu Joseph-Nicolas Robert Fleury, mon quasi-contemporain puisqu'il est né en 1797. Je l'apprécie, le bon Fleury, très courtois toujours. Il m'a même cédé la commande de la Pietà de Saint-Denis du Saint-Sacrement. Je lui ai écrit « Votre élection a été pour moi un bonheur. Je m'y suis intéressé autant qu'à la mienne, si j'ose dire. » Dès lors, je le comptais comme une voix tout acquise. J'allais déchanter, c'était Iago. J'étais occupé ailleurs cette année-là, sur la recommandation de Félix Duban, j'ai reçu la commande d'Apollon vainqueur pour le Louvre. En 1851, le fauteuil de Drolingue fut déclaré vacant. J'ai eu, par une indiscrétion, je commence à avoir des espions dans la place, la liste des lettres de candidature. Allot, Flandrin, Gosse, Gigou, mon Dieu Gigou, Gudin, Auguste Hesse, Larivière encore et toujours, Lehmann, dangereux lui, Signol et Vinchon. Vinchon par principe. Il faudra qu'il me dise un jour pourquoi il fait ça. Soulagement du camp ingriste, le 15 février, Jean Allot est élu au deuxième tour. Pour moi, c'est le vandale, celui qui a massacré les décors de Fontainebleau, ces merveilleuses peintures de la Renaissance qu'il prétend avoir restaurées et qu'il a repeintes, un barbare. Ont été classés Flandrin, Allot, Signol, Larivière, Auguste Hesse et Vinchon. Au fond, c'est leur politesse, Vinchon. On ajoute, après 5 tours de scrutin, Gosse, puis Lehmann. Cette fois, je n'ai pas du tout été classé. Mais celui que les peintres voulaient en première ligne, Flandrin, a été battu. Mais par un autre ingriste. Maintenant, ils se dévorent entre eux. Il n'y a plus qu'eux, des crocodiles ivres. Louis Pesse écrit dans le Constitutionnel que je suis le parrain de cette mauvaise engeance des artistes manqués qui nous fatiguent de leur dévergondage. Maxime Ducamp, qui entrera peut-être un jour s'il vit assez vieux à l'Académie française, m'a conseillé de retourner aux travaux littéraires et à la musique pour laquelle je suis certainement né. Victor Hugo aurait dit « Delacroix a toutes les qualités, hors une. Il lui manque ce qu'ont toujours cherché et trouvé les artistes suprêmes, peintres ou poètes, la beauté. » Merci. Que valent, après cela, les soutiens de Théophile Gautier ou de Baudelaire ? Je mourrai maudit et comblé de commandes officielles, un Janus pour notre siècle. Je vais m'attaquer au Salon de la Paix de l'Hôtel de Ville. On en a donné un autre à Ingres, on nous oppose désormais partout. Il ne s'est pourtant pas donné la peine de se déranger pour voter contre moi la dernière fois, c'est qu'il n'a même pas eu le courage de choisir entre ces deux poulains. Juillet 1853. Nouvelle joute. Cette fois, Hippolyte Flandrin est élu le 13 août au premier tour. On croit qu'Ingres a placé tous ses pions, mais avec lui, il y a toujours de l'infanterie en réserve. Je sentais depuis le début que pour moi, la question de l'Institut se présentait fort mal. Le décor de Flandrin à Saint-Germain-des-Prés est une horreur, une vitrine de confiserie. Il faudra laisser se cloquer tout cela. Bien sûr, Ingres a mobilisé toutes ses troupes pour lui. Pire, Robert Fleury m'a trahi. Ingres l'a invité et choyé. Aujourd'hui, le voilà planté, avec tous les honneurs de la guerre, membre de l'Institut, professeur. Il n'a plus qu'une faible estime pour les infortunés qui sont encore sur le terrain de tout le monde. C'est l'ingratitude. L'ingre attitude. Et l'Inde est pendance du cœur. Danse du cœur. Il me barre à l'Institut pour que je ne puisse pas enseigner aux Beaux-Arts. Comment pourrait-il enseigner des principes ? À la vérité, je crois qu'il y a aussi une méfiance des anciens rapins d'atelier qui écrivent mal et parlent mal face à celui dont on dit partout qu'il sort dans le monde, lit des livres, excelle aux yeux des charades et des rébus. Vernet fume au nez des gens dans son atelier qui est une écurie. Je n'aimerais pas devoir voyager avec un homme aussi mal élevé. J'ai le tort d'aimer les jolies maisons, Valmont, mon paradis, Augerville, les châteaux de mes cousins et la belle comtesse de Caen. Tant pis pour ces gens-là, c'est au fond charmant d'être détesté de tout ce très petit monde et de se sentir grâce à eux tous en guerre avec le genre humain. En sculpture, Simard est arrivé au fauteuil de Pradier qui sculptait des odalisques. Il se prend pour Phidias, il va voter comme Ingres. Sœur a succédé à Ramé, c'est plutôt bien, il aime Napoléon. Je ne connais pas Gilbert, élu au fauteuil de Fontaine. J'aime bien Alphonse de Gisors, qui succède à Achille Leclerc, dont on était bien en peine de citer un édifice. Je le connais, je suis allé souvent chez lui étudier un projet pour un escalier au palais du Luxembourg. Louis Visconti succède à Abel Blouet, il torfe à Huvet. Les architectes aussi sont en train de changer. Alexandre Dumas me raille. Monsieur Delacroix, homme d'esprit et de science, veut obstinément être le collègue de Monsieur Picot et de Monsieur Abel de Pujol. Par bonheur, il ne le sera pas. Je me serais bien passé d'un soutien pareil. Il se venge de voir la Française fermée pour lui. Ingres se conduit comme un enfant, il a des préférences et des antipathies également sottes. Pourtant, mon cadeau de Noël, c'est de, pour 1853, c'est d'être nommé à ses côtés avec Mérimée, à la commission des Beaux-Arts, chargée de préparer l'exposition universelle ordonnée par l'empereur. Du coup, nous nous parlons, Ingres et moi, nous faisons des efforts, nous apprenons à nous connaître, jamais un mot sur l'Institut, bien sûr. En 1854, j'ai publié mon article « Questions sur le beau » dans la revue des Deux Mondes. Fromental à Lévy devint secrétaire perpétuel. Pour moi, l'auteur de La Juive, que je fredonne toujours, est un ami et un voisin à Champs-Rosé. 1855 a été pour moi très favorable. J'ai reçu une des 16 médailles d'honneur de l'exposition, j'ai été fait commandeur de la Légion d'honneur, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire à nouveau, en recevant le décret, que rien ne finit mieux un ami de membre de l'Institut qu'une cravate, idée que par superstition j'ai chassée bien vite. Pendant ce temps, la coupole s'agite, on y traite de questions d'importance. Y a-t-il lieu de redessiner la tête de Minerve qui figure sur le sceau de l'Institut ? Sur ce sujet, ils ont voté, je crois. J'ai perdu David d'Angers. Il leur a fallu 5 tours pour remplacer ce génie par Jallet. Quelle pitié ! Ils ont osé donner comme sujet de concours pour le Grand Prix d'architecture un palais pour l'ambassade de France à Constantinople. J'ai lu la description qu'ils donnent. Avec escalier, large voie, terrasse, vue sur le Bosphore, c'est comme s'ils avaient en tête mon entrée des croisés à Constantinople. Ils n'en ont pas une claire conscience, mais je chemine en eux. Ils sont en train d'ouvrir les yeux. Ils poursuivent leur maudit dictionnaire. Monsieur Reybert a lu les mots ariette et arpège. La musique progresse, elle aussi, mais toujours à la lettre A. Ils attaquent la lettre B. Ils ont examiné blanc et bambochade. Puis est arrivé le mot « barbouillage ». Eh bien, je ne l'aurais pas cru, mais je les cite. « Barbouillage est renvoyé à la section d'architecture car il s'agit d'un terme du bâtiment. Me voilà sauvé. C'est une délicatesse qu'ils me font. Moi, dont Alfred Nettement a dit que j'étais le coryphée du genre barbouillis. Coryphée, ça sonne antique, j'ai mes chances, cet imbécile me sert. » Et ce pauvre Maxime Ducamp qui ose affirmer que « le public laisse tomber Delacroix dans l'oubli ou tout au moins dans l'indifférence, à côté des Solimen, des Luca Giordano, des Tiepolo. » Je crois que ceux qui ne se lassent pas de m'attaquer ont entrepris de faire ma réputation. Théophile Sylvestre, lui, affirme avec tranquillité « Delacroix domine tous les autres, il apparaît comme le plus grand artiste du XIXe siècle. » On voit bien maintenant que j'écris aussi dans le Moniteur que je suis reçu souvent par le prince Napoléon et par la princesse Mathilde, et que je suis admiré par Newkirk, le bel Émilien, qui a dit à Vielcastel, quand je cause avec Delacroix, je m'oublierai 2 heures sous un parapluie. Tout peut changer, je le sens. Newkirk est entré comme membre libre. Pour eux, c'est une carte importante. Il est l'homme des arts à côté de l'empereur, comme l'était jadis Forbin aux côtés du roi, ou Denon, l'œil de Napoléon. Et je crains qu'ils ne leur parlent souvent de moi lors de leur déjeuner. Victoire. Berlioz vient d'être élu. Il est vrai qu'il leur a écrit tout exprès son enfance du Christ. Ça les a rassurés. Il faut que je mette en avant tous mes Christs, mes Madeleines pénitentes, mes Saint-Jean, j'en ai à foison. Berlioz académicien, c'est un signe. Nous y sommes presque. Tout est possible. Hélas, Gounod a succédé à Adolphe Adam, ce n'est pas très bon. Gounod, depuis le temps de la Villa Médicis, vénère son bon monsieur Ingres, sa femme aussi, impossible de lutter. J'ai toujours aussi peu de défenseurs dans la section de peinture. Schnetz est pour moi, je crois, mais sait-on vraiment à qui ces messieurs donnent leur voix quand ils plient en quatre leur petit bulletin et que l'huissier fait passer l'urne ? Fromental à Lévy, secrétaire perpétuel qui me défendait, a été remplacé par Clapisson. Je suis allé voir Aubert, il m'aime bien. Les musiciens savent tous que j'étais très proche du cher Chopin. Cela compte, Chopin, de là-haut, m'aide et me protège. J'ai discuté de la polychromie des temples grecs avec Itorf. Je suis de son avis sur tout, sans avoir à m'y forcer. Je suis lié à Duban grâce à la commande pour la galerie d'Apollon, dont il a fait l'architecture et le décor. Apollon vainqueur peut m'aider à gagner. Je sens que je suis apprécié par Alphonse de Gisors. Je l'ai si souvent vu sur le chantier de la bibliothèque du Palais du Luxembourg. Je connais Lefuel, qui a été élu il y a 2 ans, le successeur de Visconti pour le chantier du Louvre. Avec les architectes et les musiciens, si les peintres repus consentent à baisser un peu la garde, je peux passer. En décembre, j'ai donc posé ma candidature au fauteuil de ce triste Delaroche, élu en 1832. J'ai écrit à Ingres pour lui dire que je suis grippé, mais qu'au fond, je l'admire. Il le fallait. Il a, je pense, levé son veto et l'a fait savoir. De Guerlas, peut-être, j'ai été classé en première ligne par les peintres. Je l'ai appris, de quoi mourir apaisé. Dès lors, rien ne s'opposait à mon élection. J'ai repris du poil de la bête. Le vote a eu lieu le 11 janvier. J'ai été élu. Mais malgré tout, au second tour. Contre moi, il y avait Amaury Duval, zélateur d'Ingres, très bien élevé, mais qui n'a pas assez peint, Bénouville, Cabanel, Cour, Gosse, S, Claudius Jacquan, Jolivet, Larivière, toujours, Lehmann, Müller, l'inusable Rouget et Signol. La chose a été faite, finalement, avec franchise. On n'a pas mis 5 tours pour me désigner, et cela ajoute à la réussite aux yeux du public. Il y a 20 ans, cela m'aurait causé un tout autre plaisir. J'avais la chance, dans ce cas, de me voir plus utile que je ne puis l'être maintenant. Madame Barbier m'envoie ses vers de Dagnan sur mon entrée à l'Académie. En nommant Delacroix, membre de l'Institut, l'Académie enfin a payé son tribut au brillant chef d'école, au maître de génie, que longtemps elle méconnut, bien qu'Appel et Zeuxis l'eussent dès son début, fait entrer dans leur compagnie, dont le goût, l'esprit et le but sont du grec pour l'Académie. Ce cher Théophile Gautier salue mon élection dans l'Artiste. Quoique cela n'ajoute rien au mérite d'Eugène Delacroix d'être nommé membre de l'Institut, nous en sommes réjouis. L'idée romantique pénètre avec lui en scène déployée et tambour battant dans la vieille citadelle classique. Le bourg inaccessible a levé sa herse et laisse entrer le preux chevalier dans son harnois de guerre que tant de horions n'ont pas faussé. Il va s'asseoir auprès de Job et des Magus qui ne savent plus ce qui se passe parmi les hommes et après avoir délacé son morion à lambrequin et retiré ses gantelets de fer comme quelqu'un qui est chez lui, il leur racontera des choses vraiment incroyables qui feront se dessiner des sourires incrédules sous les vieilles moustaches blanches. Il leur dira la fièvre, le tumulte et le tourbillon de la vie moderne et comme quoi, ses rivaux pourfendus, il a été appelé à peindre des salles, des dômes, des plafonds, des chapelles où s'agite une multitude de figures qu'anime une vie magique. Excellent Théophile Gautier. Après 20 ans, mon apothéose aurait pu être une catastrophe. Demain, on n'en parlera plus, dit le journal pour rire qui nous met Ingres et moi dans le même bocal. Ma grippe n'était pas imaginaire, je suis resté 3 semaines sans pouvoir occuper mon fauteuil, mais je suis rétabli. Demain, je ferai mon entrée dans la grande salle des séances du Quai de Conti. J'ai décidé de devenir le meilleur des académiciens. Je voterai comme Ingres me dira de voter. Je protesterai contre le gouvernement. Quand ils protesteront tous contre le gouvernement. Je les aiderai à écrire élégamment des suppliques aux ministres et des remerciements à l'empereur. Je leur expliquerai, bon prince, comment il faut s'y prendre pour faire sa cour à la princesse Mathilde. Voilà. Enfin. Ces derniers jours, le matin, dans mon jardin, en chapeau de paille, je regarde mes fleurs et je leur parle. Je m'adresse à elles et je leur dis d'une voix claire, « Messieurs, pour succéder à Paul Delaroche, vous avez choisi un homme qui, elle rit, elle pleure, et je suis incapable d'aller plus loin. Merci.